Bonsoir à toutes et à tous. Le temps des tempêtes, c'est le nouveau livre surprise de Nicolas Sarkozy qui raconte par le menu le début de son quinquennat. Alors tout y passe, hein, les relations avec les grands de ce monde. Mais l'ancien président revient aussi sur certains épisodes compliqués comme son divorce ou encore le fameux « casse-toi pauvre con ». Pourquoi ce nouveau livre au cœur de l'été ? Nicolas Sarkozy pourrait-il faire figure de recours en 2022 pour une droite en panne de candidats ? Et puis à gauche, d'ailleurs, la problématique est la même, au point que certains envisagent de voir le Parti socialiste se ranger derrière un candidat écologiste en vue de la présidentielle. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Sarkozy, un livre et un retour » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy. Vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Et vous avez rencontré hier à Ajaccio Nicolas Sarkozy. Vous nous raconterez donc pour une interview hein, qui paraîtra dans le prochain numéro de Paris Match jeudi prochain. Dominique Régnier, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes par ailleurs professeur à Sciences Po. Chloé Morin, directrice de l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès. Et enfin Géraldine Vosner, journaliste politique à l'hebdomadaire Le Point. Le Point qui titre cette semaine « Ce qui ne peut plus se décider à Paris, comment mater le mammouth bureaucratique ». Bruno Jeudy, on commence avec vous, donc vous l'avez vu et vous avez lu le livre. Que raconte-t-il ? Alors on va revenir dans le détail, mais quel est le pitch de ce livre ?
Vous l'avez dit, hein, c'est grosso modo, c'est les 18 premiers mois de son quinquennat. Hein, le livre s'ouvre sur le 16 mai 2007, le jour où il découvre le bureau de président de la République, où il se retrouve seul dans le bureau du président de la République, parce qu'il parle d'un moment vertigineux, et pourtant lui, qui est sans doute celui qui s'est le mieux préparé peut-être à la fonction, paraît un peu, il est sous le choc, hein, il le décrit comme ça, et ça s'achève au G20 de Washington, après la crise financière. Donc ça embrasse 18 mois. Alors on est plus dans le registre des mémoires que son précédent livre, l'année dernière, hein, Passion, qui était un livre plus sur l'ensemble de sa carrière politique, ses bagarres avec Chirac, son admiration pour Balladur, enfin voilà, sa conquête du pouvoir finalement. Là, on est déjà dans l'exercice du pouvoir, sa part de solitude.
Il n'y a pas de plan, hein, il a écrit d'une traite.
Alors, c'est écrit
pendant
sans
le confinement d'ailleurs.
Voilà, c'est écrit sans plan. Il est arrivé le premier jour du confinement, il a décidé de faire le livre. C'est pas vraiment un livre d'archives non plus, et il dit qu'il laissera ça aux historiens. Mais c'est extraordinairement précis parce qu'il a beaucoup
de.
Beaucoup de mémoire. Oui, il y a beaucoup de. En fait, il arrive un peu à mêler un récit qui parfois, il reprend un peu le fil de son mandat. Et puis, il y a des anecdotes, il y a des portraits, tantôt Vachard, alors il y en a qui sont rhabillés pour l'hiver, hein, Debré, quelques Fabius. Autres, Fabius,
Fabius
quelques
qui
autres.
Cohn-Bendit,
par exemple, c'était un peu plus nouveau.
Et puis, jamais cogné au réel.
Voilà. Et puis, il y a des portraits plus élogieux. Il croque aussi les grands de ce monde, Bush.
Il y a aussi
des choses plus aussi, par exemple, il raconte ce problème de santé qu'il a. Donc, il revient sur la question de la santé des présidents, du secret des présidents. Et puis, évidemment, il y a ces crises, j'allais dire, conjugales, son remariage. Il raconte tout ça en détail et il donne un peu sa part de vérité parce que beaucoup a été raconté là-dessus et il veut aussi. Moi, je trouve que c'est globalement un peu aussi un hymne à l'expérience politique.
Alors justement,
et en creux, on peut le lire aussi en voyant ce qui se passe aujourd'hui avec un président qui lui n'a pas cette expérience politique et par moment il y a un peu ces pas des allers-retours, mais on le lit aussi avec ce regard.
Mais Chloé Morin, on va pas se cacher la vérité. Ce qui est amusant, c'est il y a un petit côté voyeur. Hein, et on a les arrière-cuisine du pouvoir, et on se rend compte, d'ailleurs il le dit lui-même, d'une grande improvisation du pouvoir. Il a cette phrase, il dit « Les observateurs me prêtaient à chaque fois des intentions machiavéliques sans jamais imaginer la part immense laissée dans l'exercice du pouvoir à l'intuition, au hasard et aux circonstances. » En fait, derrière ces grands de ce monde, on improvise. C'est ça dont on se rend compte.
En fait, c'est ça qui est très intéressant. D'abord, ça, c'est très vrai. Pour le coup, j'ai travaillé à Matignon à une époque, et c'est vrai qu'on vous prête des intentions et des stratégies de communication invraisemblables, alors que souvent, c'est juste une accumulation de hasard. Donc ça, c'est très vrai. Mais il utilise ça aussi pour revendiquer ce qu'il appelle, lui, son authenticité. Et je crois que c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, personne n'a confiance dans les politiques. Et donc, ce qu'on va chercher à travers les anecdotes, les petits trucs qui semblent, vraiment peu importants, c'est cette authenticité. C'est de se dire qui est cet homme, qui est cette femme, qui est-il vraiment ? Est-ce qu'il me ment ? quelque part. Et donc,
il l'explique, ça, quand il dit « le casse-toi, pauvre con », je ne l'ai pas dit pour provoquer, je l'ai dit pour montrer que j'étais sensible, que je n'étais pas un président de cire, disait-il.
Exactement, et il dit « bon, bah, moi, je voulais me montrer tel que je suis ». Sous-entendu, d'autres jouent la comédie et sont des hypocrites. Et c'est exactement ça. On peut le lire au regard des quinquennats qui ont suivi. C'est chaque anecdote et chaque partie du livre, en fait, se lit comme une critique aussi en creux, soit de celui qui a suivi, soit du président actuel. Et sur cette thématique de la transparence, du fait d'assumer ce que l'on est, c'est extrêmement intéressant parce qu'il dit finalement on m'a accusé d'avoir désacralisé la fonction là où en réalité je ne faisais que respecter les gens qui m'avaient élu parce que finalement je les prenais pas pour des imbéciles.
Géraldine Vosner, toutes les semaines dans Le Point, il y a le classement des meilleures ventes de livres. Est-ce qu'ils se vendent bien, les livres politiques ? Et qu'est-ce qui fait que certains se vendent et d'autres ne se vendent pas ?
Alors, je crois que Nicolas Sarkozy caracole en tête des ventes. Hein, il fait des cartons. Son précédent livre, Passion, s'était vendu à 300 000 exemplaires, ce qui est colossal pour un livre tout court et alors vraiment colossal pour un livre politique. Certains se vendent extrêmement bien, je pense que ceux de Philippe Devilliers par exemple, d'autres sont des bides complets. Christine Boutin, je crois qu'elle avait fait 60 exemplaires de son livre. Il faut différents éléments pour une recette. Soit vous avez quelqu'un qui a une autorité, une stature et des choses à dire, dont on attend des choses. Typiquement, Nicolas Sarkozy a quand même été président de la République. François Hollande a aussi fait des très belles ventes pour son livre. François Fillon également avait vendu, je crois, 90 ou 100 000 exemplaires de son dernier bouquin. Ce sont de très beaux chiffres. Maintenant, il y a en plus chez Nicolas Sarkozy cette personnalité clivante, rentre dedans. On sait finalement qu'il va y avoir des choses croustillante dont on pourra se repaître. Et on n'a pas parlé, mais ne serait-ce que pour un portrait de François Bayrou, ça fait deux petites pages, mais il est tellement méchant et il est peut-être tellement juste et il porte peut-être tellement critiques du président actuel.
Puisque vous dévoilez le portrait de François Bayrou, on va y aller franchement. Il y a deux petites phrases. Alors pour lui, il dit François Bayrou. D'abord, il dit « ça n'est pas Bayrou, mais c'est ce personnage omniprésent dans la littérature du donneur de leçons ». Il voit le personnage du donneur de leçons et il a cette phrase « son tempérament profond le portait à une détestation de tout ce qui avait réussi là où lui-même avait échoué ». Il le traite de loser, donneur de leçons.
Il le traite de loser, il le traite en creux d'imbécile, hein, je pense, de quelqu'un qui n'a absolument pas conscience d'être à côté de la plaque, d'être déphasé des réalités. On ne peut pas s'empêcher de voir là un message en creux à Emmanuel Macron qui écoute ses conseils depuis le premier jour. En gros, ce qu'il dit au président actuel, c'est « tu es mal entouré, change de conseiller ». C'est quand même assez…
Pardon ? Et il le prévient, il va te trahir.
Et en plus, il va te trahir car il a trahi tout le monde. Voilà ce qu'écrit Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, c'est même pas subliminal comme message. On peut dire que c'est un message direct.
Dominique Reynier, 300 000 exemplaires vendus l'an dernier. Il va vendre beaucoup, il va vendre à son électorat. C'est toujours la vedette, la dernière à droite, Nicolas Sarkozy. La droite est nostalgique de Nicolas Sarkozy.
Oui, on peut d'ailleurs rappeler que 300 000 exemplaires vendus, si on imagine que c'est le résultat, on n'en sait rien, mais c'est ce genre de choses, ça fait plus de 2 millions de lecteurs, puisque c'est à peu près 7 lecteurs pour un exemplaire vendu. Ça circule un livre, hein. Donc ça fait quand même du monde. Hein,
la moyenne des livres en France vendus, je crois que c'est dans les 5 000. Donc vous voyez, ouais. 300 000, on est 60 fois au-dessus.
Oui, hein. Mais chaque exemplaire sera lu en moyenne par 7 lecteurs. Ouais. Donc ça fait quand même un peu de monde. De toute façon, Nicolas Sarkozy est un des politiques qui a bâti sa carrière sur un lectorat aussi. Pas simplement un électorat. Il a toujours eu cette trace à travers ses livres, hein, de programmes, d'idées, de débats, et ici de témoignages sur son expérience. Ça compte, il y a une espèce de fidélité ici dans sa relation à son lectorat. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'au fond, il a été défait en 2016, pendant la primaire. On s'en souvient. À gauche aussi, il y a eu le même dynamitage. Et depuis, en tout cas à droite, on parlera peut-être de la gauche, mais depuis, rien ne s'est mis en place. Ni une doctrine, ni un leader fédérant des femmes et des hommes. Aucun mouvement dynamique dans un sens ou dans un autre. Une espèce de grand paysage, non plus qu'abîmé, hein, par terre, renversé. Et donc, inévitablement, Nicolas Sarkozy apparaît, ancien président, avec l'autorité de l'ancien président et de l'ancien chef du parti, de l'ancien grand patron de la droite, inévitablement, Nicolas Sarkozy reste le seul aujourd'hui disponible. Ça ne signifie pas qu'il est dans une démarche de candidature. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Mais, on va en reparler. Hein.
Mais en tout cas, ça signifie que pour la France de droite, qui n'a jamais été aussi peuplée, paradoxalement, hein, pour la France de droite, il est impossible de ne pas voir Nicolas Sarkozy. Le temps a passé, le tri est fait, il y a eu des déceptions, il y a eu un jugement aussi qui peut-être s'est équilibré. Peut-être aussi qu'il y a des comparaisons qui ont été faites. Elles ne sont pas nécessairement toutes à son désavantage.
Il fait quelques mea culpa. Je ne suis pas allé assez loin dans la rupture économique.
Oui, parce qu'il, par exemple, ça, c'est typiquement ce passage dans son livre, c'est quelque chose que son parti... peut-être d'ailleurs parce qu'il ne l'a pas voulu, mais que son parti n'a pas fait, et c'est une des grandes erreurs, ça, hein, après 2012, le bilan de ce qui a été fait, mal fait, pas assez, etc., c'est resté comme ça, un peu par pudeur, ignoré, sous le tapis, c'est jamais très bon de faire ça. Donc voilà, il le fait un peu à sa manière, il est là aussi le seul à pouvoir commencer à trier dans ce qui a été fait. C'est impressionnant de voir, moi je termine là-dessus, mais c'est impressionnant de voir à quel point en 4 ans, bientôt plus de 4 ans, rien n'a été construit depuis 2016, depuis qu'il est parti.
L'échec de la primaire. Oui. Alors, dans son nouveau livre, donc, Le temps des tempêtes, Nicolas Sarkozy raconte les grands comme les petits événements des deux premières années de son quinquennat. C'est un ouvrage qui sort à un moment, on l'a dit, où aucun leader n'émerge à droite. Et si l'ancien président songeait à revenir, hier, il était à Ajaccio pour une séance de dédicace, l'occasion pour Pierre Millet, Émilien David et Diane Cacciarella de l'interroger sur ses ambitions dans les années à venir.
Certains l'attendent depuis plus d'1h30 et l'applaudissent lorsqu'il arrive. Preuve que Nicolas Sarkozy a toujours ses fans. À Ajaccio, séance de dédicace pour l'ancien président de la République et petit bain de popularité.
On adore Nicolas Sarkozy depuis toujours et c'est la première fois qu'on le rencontre. Personne dans notre famille politique n'a pu le remplacer. Et aujourd'hui, personne n'est à même de le remplacer.
C'est le seul personnage politique aujourd'hui qui incarne l'autorité de ce qu'a besoin aujourd'hui la France.
Il y a 13 ans, Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle, enchaînait les poignées de main. Il multiplie désormais les signatures. Mais cette apparition n'aurait rien de politique.
J'aime la France, j'aime les Français. Je suis heureux de ce moment de partage. Mais tout n'est pas dans la politique partisane. Mais je suis content que les gens soient là. Hier, on n'avait pas décidé encore de faire cette signature. En 24 heures, il y a tant de monde, alors que je ne me présente pas aux élections. C'est plutôt sympa et moi, ça me fait plaisir. Si j'écris, c'est pour partager.
Car un an après la sortie de son dernier livre, voici Le temps des tempêtes. Nicolas Sarkozy y raconte en 522 pages ses deux premières années au pouvoir entre 2007 et 2009. Beaucoup d'épisodes à l'international, beaucoup de regrets aussi. Il revient notamment sur la polémique du célèbre discours de Dakar.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Si j'ai mal été compris, c'est donc que je me suis trompé. Il fallut un autre discours en Afrique du Sud pour rattraper cette erreur, mais personne ne s'en souvient.
Au fil des pages, Nicolas Sarkozy revient sur d'autres moments clés, comme lorsqu'il se rend en Bretagne pour répondre à la colère des pêcheurs et se fait insulter.
Je viens ça pour ça. Laissez-moi aller à la réunion. Toi qui as dit ça, bah descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs.
Avec le recul, je regrette un peu. Ce n'était pas malin alors qu'il venait nous aider. C'était un coup de sang.
Il règle quelques comptes aussi. Particulièrement visé, le maire de Pau, François Bayrou.
Son tempérament profond le portait à une détestation de tous ceux qui avaient réussi là où lui avait échoué. Emmanuel Macron en fera à son tour, avant la fin de son quinquennat, l'amère expérience.
Un nouveau livre, une apparition au journal télévisé lundi prochain. Nicolas Sarkozy semble être partout et ce n'est pas récent. Il avait même volé la vedette à Rachida Dati lors d'un meeting de campagne pour la mairie de Paris en mars dernier.
Que j'ai gardé un sens politique fantastique.
lui dont on dit qu'il aurait largement influé sur le dernier remaniement gouvernemental, préparerait-il un retour en politique? Officiellement, c'est toujours non, ce qu'explique son conseiller d'autrefois, le maire de La Baule, Franck L'Ouvrier.
Il a tourné la page de la vie politique. En tout cas, il ne souhaite pas s'immiscer dans la vie politique. C'est pas pour ça qu'il n'en a pas l'intérêt et surtout la volonté de vouloir échanger avec tous ces acteurs de la vie politique, qu'ils soient de sa famille ou qu'ils soient d'une autre famille politique.
Plus de politique, mais de l'écriture, oui. Nicolas Sarkozy plancherait déjà sur le deuxième tome de l'histoire de son quinquennat.
Alors, question téléspectateur, Sarkozy peut-il encore faire rêver les Français ? Chloé Morin, est-ce que vous imaginez possible un retour en 2022 ? Est-ce qu'il y aurait une adhésion ?
Alors, faire rêver, sans doute pas, mais c'est pas comme ça qu'il se présente. Il se présente comme un recours, comme le capitaine dans la tempête, celui qui saura tenir la barre parce qu'il a l'expérience qui est nécessaire pour faire face à une crise économique, sanitaire, etc. etc. Donc, c'est moins... je pense qu'il sait que ceux qui ont déjà exercé le pouvoir ont d'énormes difficultés à revenir. Il en a fait l'expérience pendant la primaire. Et donc, il se dit, la seule... S'il veut revenir, à mon avis, okay. la seule chose qui se dit, c'est qu'il faut être le recours, celui qui incarnera la stabilité. Parce que si jamais Emmanuel Macron ne pouvait pas se représenter ou que les circonstances faisaient qu'il était en situation, en fait, en réalité, ça voudrait dire que la situation sera très grave. Donc, il anticipe ça et il se positionne de cette manière-là.
Oui, de jeudi, vous l'avez vu hier, vous l'avez interrogé, etc., vous le connaissez. On a l'impression, il dit qu'il a tourné la page, mais au fond d'eux-mêmes, les anciens, les ex-présidents ne rêvent qu'une chose, c'est d'y retourner.
Les anciens présidents ont toujours la flamme au fond de leur tête, y compris Nicolas Sarkozy, qui est sans doute celui qui s'est approché le plus près d'une possible réélection, puisqu'il Il concourt à la primaire, il est sèchement battu à la primaire. Valéry Giscard d'Estaing a rêvé de se présenter après la défaite de 81. Il n'a jamais pu même être candidat. Quant à François Hollande, il n'a pas pu, lui, être candidat à sa réélection. Donc Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il dit qu'il a tourné la page, il le dit sur tous les tons, vous l'interrogez, mais... Quand on discute avec lui, on sent bien qu'il ne reprendra pas le chemin de reprendre le parti demain, d'essayer d'être candidat en 2022. Si jamais ça devait se passer, ça ne se passerait pas comme ça. C'est j'allais dire, pour faire une formule, si c'est le chaos, c'est Sarko. Et donc, il n'y a qu'une possibilité D'accord. de chaos politique qui pourrait éventuellement ouvrir un chemin à Nicolas Sarkozy. Lui, aujourd'hui, il dit, moi, je soutiendrai le candidat de ma famille politique, je reste dans ma famille politique, j'ai une bonne relation avec Emmanuel Macron, il l'assume, il le dit, c'est une relation qui, d'ailleurs, paraît un peu particulière, c'est de l'ancien président qui discute avec le président actuel. Je pense que c'était aussi une manière de passer au-dessus de François Hollande, les deux détestant François Hollande presque autant l'un que l'autre. Et puis, Emmanuel Macron cherche aussi à neutraliser ce qui représente le plus grand danger, le grand danger à droite, sachant que Emmanuel Macron a découvert un Nicolas Sarkozy, parce que Emmanuel Macron, il vient de la gauche. Il vient du PS, il voyait Nicolas Sarkozy comme le Sarkozy qu'on décrivait, qu'on a décrit entre 2007 et 2012, le fou, tout ce qu'on a pu dire d'incroyable sur lui. Et il découvre, après 2017, quelqu'un qui est plus imaginatif, qui est de bons conseils. Il devient un peu presque, j'allais dire, un conseiller officieux.
Il a cette phrase dans son livre, hein, « Je ne suis pas trop vieux, je suis encore dans le coup. Quand Emmanuel Macron m'appelle, je dis ce que je ferai dans telle ou telle situation, mais c'est à lui de décider. Je ne suis pas trop vieux. » On a l'impression qu'il est flatté qu'Emmanuel Macron sollicite ses conseils.
Mais il dit carrément, si François Hollande m'avait entre guillemets, traité, j'aurais trouvé ça très bien et j'aurais réagi de la même manière. Lui, il dit, si on me demande d'aller représenter la France, c'est normal pour un ancien président de la République. Donc oui, il est flatté, mais il trouve surtout ça normal. Nicolas Sarkozy, dans son esprit, un ancien président, ça sert à quelque chose.
D'accord. Mais Géraldine Vosner, c'est pas un problème pour la droite, ça, d'avoir Sarkozy, qui est la vedette de la droite, dire, bah, écoutez, cet Emmanuel Macron, franchement, il est bien.
C'est d'autant plus un problème que maintenant, à peu près tous les courants de la droite sont représentés au sein du gouvernement, si vous voulez. Avec Jean Castex, on a la tendance Xavier Bertrand, Darmanin, c'est la queue dans de Sarkozy, on a Bruno Le Maire, on a eu la tendance Juppé, enfin, là, on a quand même à droite un champ un peu désert. Donc oui, c'est un problème pour la droite. Maintenant, Nicolas Sarkozy ne lui plante pas de banderille. Comme le dit très bien Bruno, il considère normal de peser dans le débat public. C'est d'ailleurs assez touchant dans son livre. Plusieurs fois, il raconte avec beaucoup de naïveté et de sincérité à quel point, depuis qu'il est tout petit, il a besoin d'être sur le devant de la scène. Il a besoin qu'on le voit. Il a besoin d'être non seulement dans l'action, mais acteur, et puis que les projecteurs soient braqués sur lui. Il le reconnaît et il ne fait qu'affirmer cette nature profonde en intervenant. Et c'est vrai qu'il intervient beaucoup, il est intervenu évidemment dans la formation de ce gouvernement parce qu'on lui a demandé conseil, parce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qu'Emmanuel Macron a peu d'options autour de lui, a peu finalement de talent qui l'entoure.
Vous disiez ce besoin depuis qu'il est tout petit d'être sur le devant de la scène, avec quand même dans son livre, parce que j'essaye de trouver des petites phrases pour illustrer, on voit qu'il a un petit complexe de ne pas avoir fait l'ENA. Je sentais que les gens voulaient des élites, ils voulaient un Juppé ou un Fabius. Il ne se sent pas légitime. Enfin, comment analyser cette petite phrase ?
Au contraire, mais c'est la spécificité aussi de Nicolas Sarkozy, et c'est ce qui le relie d'ailleurs à Emmanuel Macron et à Giscard. Il y a finalement une ligne entre Giscard, Sarkozy et Macron. Ils ont tous les trois été élus contre leur famille politique, et c'est aussi le cas d'Emmanuel Macron. Ils ont fait des réformes qui ont été structurantes, mais mal comprises ou pas comprises comme telles au moment où ils les ont faites. Ils ont fait des erreurs personnelles, ils ont été attaqués sur leur personne. Ils ont beaucoup de points communs. Et Nicolas Sarkozy n'a de cesse, depuis qu'il a quitté l'Élysée, que d'expliquer sa politique, à quel point elle a été mal comprise, mal jugée, et il reprend le détail dans ce livre des réformes qu'il a faites, qui étaient pour certaines des réformes structurantes, l'autonomie des universités. Il raconte aussi à quel point il a eu du mal à gérer la haute administration, qu'il a dû se battre. En fait, il était en opposition avec sa famille, en opposition avec l'administration. Et en ça, il y a une filiation qui s'établit avec Macron.
Dominique Régnier, est-ce que le problème, c'est que Emmanuel Macron, surtout avec Jean Castex, au fond, a fait une OPA sur la droite et finalement... Jean Castex, c'est un gouvernement sarkozyste que nous a déniché Emmanuel Macron.
De toute façon, il y a une caractéristique des gouvernants, c'est qu'ils sont considérés comme à droite, même quand ils sont de gauche. Ah. L'exercice du pouvoir vous amène à avoir...
On oublie les principes et les idéaux et on obéit aux injonctions de Bruxelles ?
Non, mais il y a des difficultés pratiques. C'est un procès qui a été fait à François Hollande, par une partie de la gauche, d'avoir mené une politique de droite.
D'où les frondeurs.
D'où les frondeurs. Et je ne veux pas dire que ce procès est recevable. Je veux dire que le fait de gouverner, d'être confronté à des réalités parfois inextricables, vous amène à prendre des décisions qui ne sont pas dans une doctrine, qui sont le reflet d'une réalité compliquée. Il faut aussi ajouter que, pour éclairer cette position de Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier ça, parce que c'est un jeu d'hommes, un jeu d'acteurs, mais c'est aussi la scène du drame historique. Depuis Chirac, mais à peine, et surtout depuis Sarkozy, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, l'histoire est en train de tonner. C'est ça aussi le temps des tempêtes, j'imagine. Le pays est quand même extraordinairement agité sur le plan intérieur et menacé sur le plan extérieur. Au fond, De Gaulle a connu un monde de reconstruction. Pompidou, Giscard et Mitterrand, c'est un monde très apaisé. Tout ça mériterait plein de commentaires, mais c'est un monde vécu par les Français comme très apaisé. Avec Chirac, ça a commencé à se dérégler. On se souvient de l'Irak et puis de 2005, le référendum raté sur l'Europe qui commence à poser des questions fondamentales auxquelles il ne pourra pas répondre. Nicolas Sarkozy, la crise de 2008, c'est une crise absolument cataclysmique. François Hollande est confronté à un problème de terrorisme qu'on n'avait jamais vu. Et Emmanuel Macron, depuis 2017, c'est sans arrêt, que ce soit les gilets jaunes, des crises incroyables, incroyable jusqu'à la crise sanitaire actuelle et crise économique. Ce sont des événements sans précédent. Donc nous avons aussi, il ne faut pas oublier ça, parce que ces femmes et ces hommes dont on parle, on ne peut pas quand même mettre de côté les inquiétudes qu'ils peuvent éprouver pour le pays qui est le leur. Ça ne va quand même pas bien.
Et donc pour 2022, ce sera
c'est compliqué.
Très et courageux. Que de
oui, d'ailleurs, on peut souvent se dire, mais comment peuvent-ils désirer exercer ce pouvoir dans un monde pareil, avec des choses aussi difficiles, et où la détestation vous guette, mais dès la première semaine passée. Donc vous avez, dans un régime médiatique qui est devenu presque insoutenable, parce que le casse-toi pauvre con, c'est un régime médiatique, c'est pas Nicolas Sarkozy. Lorsque, à une époque, Pierre Mauroy, qui avait été insulté dans un aéroport, Premier ministre, a lâché sa sécurité pour aller casser la figure au type qui l'avait insulté.
Il n'y avait pas de caméra.
On l'a retenu, il s'est rien passé. Enfin, il a eu un élan qu'on peut comprendre, d'homme blessé, et très naturellement, il est allé dire son fait à la personne. Mais il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de téléphone. Mais, donc c'est un régime médiatique. Et tout ça, si vous voulez, pour dire que ce sont des femmes et des hommes. Là, on parle de Nicolas Sarkozy, mais qui voit la France et qui s'en inquiète quand même. C'est compliqué ce qui se passe. Qui sait ce qui va nous arriver ? Ouais. La Chine, la Russie, Trump, la Turquie. La Turquie nous fait quasiment des menaces de guerre.
Pour Nicolas Sarkozy, c'est peut-être l'occasion justement de jouer ce rôle de recours.
Oui, mais c'est ça. Il y a une vraie question, je dirais, de gravité historique.
Chloé Morin, en 2017, pour revenir sur la droite, la droite a perdu une élection qu'elle qualifiait d'imperdable. Il y a eu l'IFOP là, qui a refait un sondage pour sonder où les Français se situaient politiquement. On s'aperçoit que le barycentre des Français s'est encore droitisé. C'est sur une échelle de 1 à 10, 10 étant à droite. Les Français se situent maintenant à 6,2 de mémoire. Et pourtant, on le voit bien, la droite s'apprête à perdre les prochaines élections de 2022. Comment expliquer que la France se droitise et que la droite n'arrive plus à gagner les élections ?
Alors, la droite ne gagne plus d'élections, mais enfin, elle n'a pas eu des scores déshonorants non plus aux dernières municipales quand même. Dans les territoires, les Républicains restent, conservent un ancrage qui est important. Néanmoins, oui, c'est vrai qu'il y a deux éléments qui manquent cruellement. Le premier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le renouveau idéologique. C'est non seulement il n'y a pas eu d'inventaire du quinquennat Sarkozy, mais il n'y a pas eu de nouveauté. C'est-à-dire qu'on est encore en train de débattre des mêmes thèmes que Sarkozy avait mis sur la place publique, que ce soit le travailler plus pour gagner plus, avec les fameuses heures supplémentaires défiscalisées qui ont fait leur retour, la valeur travail, le mérite, même toutes les questions d'identité qu'il avait mis aussi de manière sans doute très maladroite sur la place publique, mais on débat encore des mêmes sujets. Et finalement, la droite n'a jamais su dépasser le travail programmatique et idéologique que Nicolas Sarkozy avait fait.
Et même à la droite anglaise qui est devenue par exemple protectionniste et sociale, qui pour le coup a opéré un virage.
Effectivement, on pourrait se dire que compte tenu de toutes les crises qui ont été citées, le monde étant ce qu'il est, on aurait pu se dire que des paramètres fondamentaux pouvaient bouger. Après, il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est l'absence d'incarnation. On a du mal à voir, on sait que, par exemple, François Baroin n'a pas l'air d'avoir trop envie, et donc du coup, même sa famille politique s'inquiète de ce qu'il est trop absent pour un potentiel candidat. Il y a Xavier Bertrand, mais il est en dehors du jeu, il est à côté, donc est-ce qu'il pourra…
Il a quitté le parti, hein.
Il a quitté le parti, donc il reste de droite. Donc, est-ce que s'il peut y avoir à un moment est-ce qu'il peut revenir dans sa famille politique ? On ne sait pas. Ça semble peu probable. Et du coup, la droite est complètement
Édouard
paralysée.
Philippe, c'est personnalité préférée des Français, 56%, sondage du Point. Qui veut Bruno Jeudy ?
Édouard Philippe est apparu. Édouard Philippe a conservé ses déterminants de droite tout en passant 3 ans à Matignon aux côtés sous les ordres d'Emmanuel Macron. Donc ça reste quand même. L'opinion le perçoit d'abord comme quelqu'un de droite. 80% des sympathisants Les Républicains, selon l'enquête IFOP pour Match, ont une bonne opinion d'Édouard Philippe. C'est plus que François Baroin, qui est troisième, c'est plus que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Il y a guère, évidemment, que Nicolas Sarkozy, qui lui réunit 9 sympathisants républicains sur 10. Donc, de toute façon, Nicolas Sarkozy est le chef de la famille, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et rien ne peut se faire, j'allais dire, c'est lui qui adoubera s'il y a un candidat en 2022.
Mais Édouard Philippe, il va au-delà. Il est numéro 1.
Édouard Philippe est maintenant...
Toute tendance confondue.
Oui, mais alors après, Édouard Philippe, il va falloir... Il a un patrimoine sondagier incontestable en sortant de Matignon. Maintenant, c'est lui qui en fera quelque chose ou pas. Des gens qui ont eu de très bonnes situations dans les sondages et très longtemps, ça existait souvent. Est-ce que là, ça peut fonctionner? On verra. C'est lui qui devra donner des signes, donner des signaux rapidement de ce qu'il veut, de ce qu'il veut en faire. Aujourd'hui, la situation de la droite va être très dépendante du positionnement que va choisir Emmanuel Macron dans les 2 ans qui viennent. En choisissant Jean Castex, qui est un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, il a fait le choix de rester sur le centre-droit, parce qu'il considère que s'il avait pris une personnalité de centre-gauche, il était battu en 2022. Et même en choisissant Jean Castex...
Il faut aller voir droite, quoi, c'est ça.
Et même en choisissant Jean Castex comme personnalité de centre-droit, comme Premier ministre, ce n'est pas du tout certain que ça marche. On voit bien que la question de la sécurité va être centrale. Et de ce point de vue-là, Macron devra passer aux actes et aux résultats s'il veut vraiment séduire et garder cet électorat de centre-droit, de droite modérée. Sinon, cet électorat cherchera une autre incarnation.
Oui. Chloé Morin, vous vouliez ajouter
quelque chose ? Juste sur l'incarnation, celui qui est devant Édouard Philippe, c'est Nicolas Hulot. Donc ça prouve bien que le fait d'avoir une popularité et un capital de popularité, ça ne n'engendre pas nécessairement une force politique et puis un socle suffisamment cohérent et solide pour se projeter dans l'élection.
Alors si la droite peine à se trouver un leader et un programme, hein, vous l'avez dit, à gauche ça n'est pas mieux. Le Parti socialiste tente du coup de surfer sur la vague écolo. À Tours, une vingtaine de maires socialistes et écologistes se sont réunis mardi dernier pour une journée de travail à huis clos. Ensemble, ils ont posé les bases d'un réseau des villes de gauche, un contre-pouvoir qui pourrait bientôt devenir une rampe de lancement pour 2022 avec Anne Hidalgo à sa tête. Sur place, Juliette Vallon et David Lemarchand.
Derrière ces masques, devine-t-on déjà les traits d'une nouvelle famille politique ? À Tours ce mardi, rencontre très médiatisée entre une vingtaine de maires écologistes et socialistes.
Pour enlever les masques ?
Oui. Présent, Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais aussi les maires de Grenoble et Bordeaux. Objectif de cette réunion en petit comité, réfléchir à la création d'un réseau entre leurs villes pour accélérer la transition écologique.
On a évoqué au moins une quinzaine de sujets sur lesquels on pourrait travailler, des sujets qu'on portera au niveau gouvernemental, au niveau français bien sûr, mais aussi au-delà de ça, au niveau européen. Donc voilà plein de chantiers en cours avec une vraie volonté aussi de créer des solidarités entre nous.
Je me réjouis comme mes collègues de ce moment d'échange et puis de ceux qui viendront parce que je pense qu'on va faire des belles choses ensemble.
Écologistes et socialistes, côte à côte. Le résultat d'une alliance gagnante de certaines de leurs listes municipales. Une occasion de se rapprocher pour peser davantage dans le débat politique.
Les socialistes nous apportent aussi une expérience qu'on n'a pas forcément.
Mais alors une question, l'union entre écologistes et socialistes est-elle à l'ordre du jour pour la présidentielle de 2022 avec Anne Hidalgo comme candidate ?
On travaille. Soyez pas obnubilés par la question de la présidentielle et la question de l'incarnation. Il faut travailler d'abord.
Ce réseau rose et vert, c'est l'idée du nouveau maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis. Il nous a donné rendez-vous le lendemain dans un quartier populaire de la ville. Pour lui, l'écologie doit aujourd'hui s'adresser au plus grand nombre et plus seulement aux bobos.
Vous êtes le nouveau maire à Tours ?
Ouais, tout à fait. Chanté. Tous les cas, on essaye d'aller dans le quartier, de rencontrer les gens, de se présenter.
L'un de ses premiers chantiers, s'attaquer à la rénovation thermique des logements.
C'est une réponse au problème de précarité, puisque isoler les bâtiments, c'est finalement faire baisser les charges, et c'est au final redonner un peu de pouvoir d'achat à ces populations qui en ont besoin. On est dans des quartiers où il y a des niveaux de pauvreté élevés. Donc voilà, on combine à la fois les politiques écologiques avec des actes et des politiques sociales fortes.
Initier des actes forts au niveau local, être un contrepoids à la politique nationale menée par Emmanuel Macron, avec comme premier cheval de bataille l'arrivée de la 5G en France. Avec d'autres maires du réseau, l'élu de Tours réclame un moratoire avant le déploiement de cette technologie sur le territoire.
D'abord, on dit qu'il faut au minimum attendre la mise, les résultats avant de lancer cette technologie. On ne peut pas être les cobayes de cette technologie. Et puis, deuxième sujet extrêmement important, c'est l'intérêt, finalement, pour la population. Quel est l'intérêt général de cette nouvelle technologie? Est-ce que c'est juste une nouvelle technologie qui apportera un confort, mais qui n'est pas indispensable? Ou est-ce que vraiment, il y aura un intérêt général à développer cette technologie?
5G, mais aussi transport en commun, éducation ou plafonnement des loyers. Autant de thématiques sur lesquelles les maires écologistes et socialistes vont travailler ensemble dans les semaines à venir, en attendant peut-être de se réunir bientôt autour d'un programme commun.
Alors justement, question téléspectateur, la rencontre entre Anne Hidalgo et Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, marque-t-elle le début d'un renouveau de la gauche, Géraldine Vosner?
Alors, elle marque le début, elle marque une volonté, effectivement, d'essayer quelque chose. Il n'a échappé à personne que les derniers résultats électoraux étaient, un, très favorables aux Verts. Je parle notamment des européennes, 13%, de cette vaguelette aux municipales, où on a senti une dynamique, même s'ils ont pris peu de municipalités, mais on a senti une dynamique. Et il faut comparer ça aux résultats du Parti socialiste qui est passé pour le coup aux européennes, qui s'est effondré, qui est passé derrière en fait Europe Écologie Les Verts. Donc on voit qu'aujourd'hui le moteur de la gauche, mais il n'est plus au PS, hein, il est chez Les Verts, il n'est pas aberrant de tenter une alliance. Donc, et c'est évidemment ce que tentent Anne Hidalgo, Éric Piolle, Sévère. Maintenant, il y a très très loin de la volonté à la concrétisation de cela. Parce que, et je pense que mes confrères auront beaucoup de choses à en dire aussi, mais on voit vraiment mal comment vont pouvoir se concilier des politiques et des courants politiques qui sont aussi divers, aussi différents du radical plus proche de la France insoumise aux socialistes, social-démocrates. Alors, c'est très loin d'être fait.
D'autant qu'on voit que les Verts sont des alliés compliqués à gérer. Bruno Jeudy, on peut peut-être revenir sur la... Est-ce qu'on peut parler d'une crise politique à Paris, là, où Anne Hidalgo demande des excuses? Alors, il y a tout un pataquès à cause du conseiller à la culture de la mairie de Paris qui a dû démissionner parce qu'il a connu dans le passé Gabriel Maznov, oui, qui est accusé de...
C'est la démission de Christophe Girard.
Voilà. Et du coup, il y a eu des pancartes d'écologistes disant pédolandes au sujet de l'hôtel de ville de Paris. Du coup, Anne Hidalgo demande des excuses à ses alliés écolos qui sont dans sa coalition.
Oui, ça commence très fort à Paris entre socialistes et écolos. Ce sera une mandature difficile, mais Anne Hidalgo a largement fait main basse sur cet électorat. La vérité, c'est que les écologistes ont fait un très mauvais score à Paris parce que Anne Hidalgo, elle a rapté cet électorat. Ça va pas bien se passer entre eux, mais enfin bon, elle est maire, c'est son deuxième mandat, elle a l'expérience politique et l'autorité, croyez-moi, pour arriver à les mater.
Mais
enfin,
la question, c'est est-ce que les Verts n'ont pas une autre façon de faire la politique, plus radicale, plus proche du militantisme que de la politique un peu à la papa, telle qu'on la concevait au Parti Socialiste ou à droite?
Géraldine a raison sur le constat. La gauche et le PS est dans un état très compliqué. Les écolos, ça va un petit peu mieux. Ce n'est pas non plus, j'allais dire, un moteur à réaction qui va partir et qui va pouvoir aller directement au deuxième tour de la présidentielle. En tous les cas, pas pour l'instant. Donc, ils essaient de se mettre ensemble avec, moi, je pense, des positionnements idéologiques qui sont très, très difficilement conciliables, sauf à ce que le PS mette vraiment beaucoup d'eau dans son vin sur des questions centrales. Il est clair qu'en 2017, c'est les Verts qui se sont effacés derrière les socialistes pour présenter, rappelons-le, un seul candidat. On a vu à combien ça s'est terminé. Que 2022, Olivier Faure est déjà dans la situation de se ranger derrière le candidat écolo. On peut l'imaginer comme ça. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître que Mme Macron, ayant ouvert un espace au centre-gauche, voire sur l'écologie, il y a paradoxalement peut-être plus d'espace de ce côté-là que pour la droite, où ils ferment un peu le jeu, mais je ne suis pas certain que ça leur donne pour autant beaucoup de chance en 2022. Ils n'ont pas d'incarnation, ils n'ont pas un programme, j'allais dire, commun, comme on le disait naguère, et en plus les tempéraments, les façons de faire de la politique sont aux antipodes des uns des autres.
Chloé Morin, Bruno Jeudy vient tout tranquillement de dire qu'il était possible qu'en 2022, ce grand parti, qui est le Parti Socialiste, le parti de François Mitterrand, pourrait ne pas avoir de candidat et se ranger pour accéder au pouvoir derrière un candidat vert ?
Oui, alors on critique, enfin, un certain nombre de membres du Parti Socialiste ont critiqué vertement la stratégie d'Olivier Faure en disant bah, c'est pas possible qu'un tel parti. Enfin, c'est un parti que lui a pris donc en 2018, janvier 2018, et qu'il a pris tel qu'il était à ce moment-là, c'est-à-dire au fond du trou. Et donc, quand on est un parti à 6%, on ne peut pas se comporter comme un parti à 30%. C'est juste pas possible. Et donc, la stratégie qu'il a mise en place depuis ce moment-là, c'est de se dire, plus personne ne voulait parler au PS, parce que l'ensemble des associations et des autres partis de gauche considéraient que Hollande avait trahi. Donc, déjà, renouer avec les différents satellites de gauche, les associations, même les Verts, etc., faire des choses ensemble. Ils ont signé ici et là des tribunes ou des projets de loi, ce genre de choses. Au moment des retraites, on les a vus faire front commun, etc. Et puis ensuite, dire, bon, bah, tout seul, on n'a plus l'hégémonie à gauche, tout seul, on ne peut plus rien, donc l'union est incontournable. Et c'est vrai que, de fait, ça marque un recul par rapport à ce que le Parti Socialiste a été. Mais compte tenu de la situation électorale, je ne vois vraiment pas comment il aurait pu faire autrement. Regardez les municipales. S'ils avaient été dans une stratégie consistant à y aller seuls, ils n'auraient pas gagné autant de villes, et les Verts non plus. Donc, quelque part, l'union, c'est quelque chose qui s'impose. Ça va être de toute façon 2022, l'union ou la disparition, hein, pour tous. Parce qu'on voit, on voit mal comment un candidat purement écolo arrive au second tour de la présidentielle, surtout avec les problèmes qu'on a évoqués juste avant, c'est-à-dire le fait qu'ils ont toujours la tentation du groupuscule militant qui est assez inquiétante, parce que ça rappelle, ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni en ce moment, c'est-à-dire les dérives. On a vu la démission d'une éditorialiste du New York Times, par exemple, où en fait, on a une petite partie de militants qui font tellement la morale.
Ce sont les plus purs qui prennent le pouvoir.
Voilà. On imagine mal un parti ayant des personnes aussi jusqu'au boutiste parvenir quand même à gagner l'élection présidentielle.
Bruno Judy disait à l'instant, Anne Hidalgo, elle arrive à se dépêtrer quand même des écolos et de sa majorité. Elle ne pourrait pas avoir un destin national pour 2022. Alors, elle n'arrête pas de dire « ça ne m'intéresse pas », mais enfin bon, jusqu'au moment où on va lui demander, non ?
Alors, elle dit que ça ne l'intéresse pas. Effectivement, c'est une des figures qui est le mieux placée, parce qu'à la fois écolo-compatible et de gauche, donc c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, Emmanuel Macron, en composant son gouvernement, a découvert son flanc gauche et finalement a bien garni son gouvernement de personnes de droite, mais on peine à voir les signaux qui ont été envoyés à la gauche. Donc c'est intéressant pour elle. Le gros handicap qu'elle peut avoir, c'est le fait d'être parisienne. Elle incarne vraiment la quintessence du parisianisme.
Bobo, et donc il y a le côté déconnecter bobo, les territoires.
Et en plus, on a vu, surtout ces derniers mois, la force du clivage entre province et Paris à travers tout le débat autour de Didier Raoult, par exemple.
Bon. Et Dominique Reynier, alors autant Sarkozy fait figure de recours à droite, personne ne parle. On n'a pas prononcé son nom, François Hollande. Il est oublié, il est tombé dans les oubliettes de l'histoire ou...
Non, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est difficile pour lui, parce que je pense que la grande faute de François Hollande, c'est de ne pas s'être représenté en 2017. Je crois que c'est très difficile de ne pas aller au combat, alors qu'on peut y aller, puis ensuite de dire à ses troupes, maintenant je suis prêt, venez avec moi. Je pense que c'est une faute très grave, peut-être difficile à surmonter. Mais les socialistes, ils savent compter. Moi, je suis frappé par le débat actuel. On s'est fait enfumer par les Verts. Les écolos, c'est une pensée qui est très présente dans le monde.
On vient de voir dans le reportage, ils ont pris les grandes métropoles de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers, etc.
Non. Écoutez, ils ont pris 6 métropoles de plus de 100 000 habitants.
Mais quelles
métropoles ? Sur 42, ils en ont pris 6. Et je voudrais juste vous dire, si vous prenez les villes de plus de 20 000 habitants en France, vous en avez plus de 450. La droite en a eu à peu près 260. Le PS en a eu plus de 140. Les écolos, ils en ont eu 12. Vous parlez d'une vague. une vague comme ça, on ne va pas à la plage. Donc c'est complètement, mais alors c'est surjoué, ils ont gagné la bataille médiatique. D'ailleurs, c'est la figure de Nicolas Hulot. Il n'y a pas de fond politique au sens électoral, mais vous avez une notoriété. C'est assez bizarre ce qui se passe. Il y a une espèce de... Au fond, c'est un peu d'ailleurs ce que disait tout à l'heure, vous le citiez, ou c'était Bruno Jeudy, je ne sais plus, mais ce que disait Nicolas Sarkozy de Cohn-Bendit, c'est-à-dire il y a une aura médiatique, mais la réalité, elle n'est pas là. Ça, c'est la première chose. Ils ne sont pas... il ne faut pas prendre les municipales. C'est les élections, à ma connaissance, les plus abstentionnistes depuis que les élections existent en France, 1848. Donc, ils vont voter, les électeurs qui ne sont pas allés voter, vous allez voir, ils ne vont pas rester chez eux. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les chiffres. Deuxième remarque de fond, nous sommes dans une crise grave. On a reculé de 10 ans en termes de richesse nationale, de 10 ans. Vous croyez que les Français ont envie qu'on leur parle de décroissance ? Ils veulent de l'emploi, du pouvoir d'achat, qu'on finance le système de santé, qu'il y ait de l'avenir pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Enfin, c'est tout le contraire. Ça, les socialistes, à mon avis, sont plus en phase avec ça
que les écolos. C'est vrai qu'il y a des start-up à Bordeaux qui s'inquiètent de ce que le maire va renoncer à la 5G.
Voilà, hein. Donc si vous voulez, il faut aller de l'avant parce qu'il faut tout rebâtir. 10 ans de richesse perdue, c'est énorme. Ça, il faut essayer de se remettre d'aplomb. Si vous arrivez avec un discours de détestation de l'économie, de la production, de la 5G et de tout un tas de choses d'ailleurs, parce que les écologistes n'aiment pas, enfin détestent bien des choses, enfin, les écologistes, Europe Écologie Les Verts, puis quelques écologistes, ils ne sont pas tous comme ça. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'ils trouvent là un point d'accord. Et les socialistes, à mon avis, qui savent compter, qui ont une force locale, les socialistes. Le Sénat est à droite, parce que la droite domine les territoires. Ça, on l'oublie, mais la droite domine les territoires. Les socialistes sont puissants aussi. Les écologistes ne sont pas implantés. Mais quand il va falloir compter où sont les vraies forces, je pense que les socialistes, en tout cas, auront intérêt, mais ils le feront, ils auront intérêt à dire aux écologistes, écoutez, on vous aime bien, on peut faire une route avec vous, mais ne commencez pas à avoir le melon, on va avancer ensemble et vous resterez à votre place. Il y a une place qui est à vous, il y a une place qui est à nous et les chiffres montrent que la place pour le PS, elle est logiquement la plus importante.
Alors, en revanche, il y a un parti où c'est très clair, c'est le Rassemblement National, puisque là, la candidate s'est déjà déclarée, il s'agit de Marine Le Pen, la chef du Rassemblement National qui revendique désormais l'héritage gaulliste. Et Marine Le Pen a même franchi un nouveau pas en condamnant il y a quelques jours la rafle du Veldiv. Décryptage de la stratégie de la candidate avec Julien Launay et David Lemarchand.
Marine Le Pen déjà sur la ligne de départ. Au mois de janvier, elle s'est officiellement déclarée candidate à la présidentielle de 2022. Partie très tôt, elle n'a pas tardé avec l'apparition du coronavirus à défier le pouvoir en place.
Tout ce que nous n'avons pas fait depuis 4 mois, ce sont les Français qui le payent et qui le payent au prix fort. Encore une fois, on continue avec l'idéologie, nos frontières sont ouvertes, on accueille des gens, on ne les teste pas.
À l'offensive, pour Marine Le Pen, cette crise sanitaire est l'occasion au fil des semaines de hausser le ton contre l'exécutif. Discours musclé à maintes reprises, dans lequel elle dénonce sans retenue ses carences et ses failles.
Une série de mensonges ont été énoncés par le gouvernement dès le début de cette crise sanitaire. La première étant « nous sommes prêts », alors que ça n'était pas le cas. Et objectivement, le bilan qui sera fait de cette crise sanitaire, quand tous ces mensonges seront mis les uns après les autres, eh bien, on s'apercevra que probablement c'est le gouvernement qui a non seulement le plus mal géré cette crise sanitaire, mais de surcroît a fait preuve du plus grand mépris à l'égard de la population.
Critiquer encore et toujours, mais pas de quoi en tirer profit. Selon ce sondage publié début mai, 41% des Français estimant qu'elle ferait moins bien qu'Emmanuel Macron face à la pandémie. Stratégie d'autant moins gagnante pour Marine Le Pen que les résultats des municipales sont modestes. Bilan mitigé à l'issue du deuxième tour, à l'exception de la victoire à Perpignan de Louis Alliot, son ex-compagnon.
C'est un vrai déclic, parce que nous allons aussi pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer des grandes collectivités, ce qui évidemment aura son importance compte tenu des échéances départementales et régionales. Le système a toujours souhaité nous empêcher de démontrer nos capacités dans des grandes collectivités. Il ne pourra plus aujourd'hui le faire.
En conquête, pour se donner les moyens de ses ambitions, la présidente du Rassemblement national soigne son image. Le mois dernier, elle s'est rendue sur l'île de Sein pour célébrer l'appel du 18 juin du général de Gaulle.
C'est une honte, Madame Le Pen.
La honte, la honte.
Comité d'accueil hostile. Malgré une visite houleuse, elle a tenu à revendiquer l'héritage du fondateur de la Ve République.
Depuis toujours, le Rassemblement national et avant lui, le Front National, s'est battu pour l'indépendance de notre pays. Il s'est battu pour la souveraineté du peuple français. Et par conséquent, il m'apparaît, il me semble que ce sont des idées et des aspirations qui étaient communes avec celles du général de Gaulle.
Le pari de la normalisation. Et elle a même récemment franchi un nouveau pas vers la dédiabolisation de son parti.
La commémoration de la rafle du Veldiv nous rappelle au devoir de mémoire face à l'expression la plus abjecte et abominable de l'antisémitisme.
La rafle du Veldiv en 1942. En l'évoquant lors de la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen avait déclenché une tempête.
Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France.
En quête de respectabilité en vue de l'échéance 2022, la présidente du Rassemblement national peut-elle justement fédérer davantage cette fois-ci ?
Très clairement, c'est un parti qui se situe à droite et qui poursuit son effort de dédiabolisation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça lui permet de gagner tout ce volant d'électeurs de droite qui continuent quand même à voter pour LR, qui se sort pas si mal finalement des élections municipales et qui est un petit peu effrayé par le côté aventureux du vote pour la candidate du Rassemblement national, quand bien même ces électeurs partageraient un certain nombre d'idées sur les effets négatifs du multiculturalisme, sur le laxisme sécuritaire ou sur les côtés négatifs de l'Union européenne.
Il y a peu, un sondage IFOP donnait Marine Le Pen en tête du premier tour en 2022 avec 28% des voix. Elle finirait par s'incliner face à Emmanuel Macron dans le cas où le chef de l'État se représenterait.
Justement, question téléspectateur. Macron désavoué et Sarkozy, virgule, rappelé contre le danger, entre guillemets, Marine Le Pen. Chloé Morin, Marine Le Pen, on a vu, elle a de bons sondages. Elle est... Comment ça se présente, l'élection de 2022 elle a de fortes chances d'être au second tour?
Alors oui, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy le rappelle dans son livre en disant 2007 finalement c'était l'époque où la droite existait et occupait tout le terrain et ne laissait aucun espace finalement au RN. Donc il sait que c'est une victoire finalement qu'il est seul à droite à ce jour à pouvoir revendiquer. Elle est très haute dans les sondages. Mais enfin, disons que c'est la seule à avoir un socle solide et stable dans un paysage extrêmement volatile et fragmenté. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on parlait des Verts tout à l'heure, ils peuvent faire 15 un jour et puis 5 le lendemain. Et donc les choses sont extrêmement fluides. Elle résiste, elle a un socle qui passe les élections, etc. Pour autant, est-ce qu'elle est absolument certaine d'arriver la prochaine fois au second tour? C'est quelque chose qu'on ne questionne jamais, mais c'est possible en soi, parce qu'elle n'est pas si haute que ça. Il suffirait d'une incarnation solide sur le parti de droite ou sur une espèce de gauche, centre-gauche unie, pour que finalement, elle ne soit pas nécessairement au second tour. Et juste un sondage, justement Paris Match pose la question régulièrement de qui incarne la meilleure opposition. Souvent, c'est ceux qui sont les plus vociférants et les plus... cash qui gagne donc d'un côté la France insoumise, de l'autre côté Marine Le Pen. En 2018, Marine Le Pen était devenue dans ce baromètre-là la principale opposition aux yeux des Français. Et depuis un an, en fait, on se rend compte qu'elle perd, alors elle reste en tête, mais elle perd vraiment du terrain. Elle était il y a un an à 43% et là elle est à 31%. Donc on se dit que quelque part elle ben, c'est le Rassemblement national face au PS.
Non, mais elle perd du terrain. C'est qui est considéré comme le meilleur opposant maintenant?
Ben, la difficulté, c'est que pour l'instant, personne n'en tire vraiment de profit. Mais c'est une situation qui n'est pas une dynamique positive.
D'accord. Et Bruno, je dis, pour passer le second tour, est-ce qu'il y a toujours un plafond de verre pour Marine Le Pen qui l'empêche de passer le second tour?
Oui, je le crois, qu'il y a toujours ce plafond de verre. Et essayer de tirer des conclusions de l'élection de Louis Alliot à Perpignan me paraît très aléatoire, parce que ces municipales n'ont pas été bonnes pour le Rassemblement national, qui a peu existé. Et la situation de Perpignan est une situation locale, où le candidat connu, hein, Louis Alliot, a soigneusement caché son étiquette. Il a bien fait en sorte que Marine Le Pen ne vienne pas. Et il a plutôt copié ce qui s'est passé à Béziers 6 ans plus tôt, avec Robert Ménard, c'est-à-dire une sorte de campagne très locale où il a retourné des communautés. Bon, voilà. Et il a eu cette victoire. Mais cette victoire ne construit pas grand-chose. Moi, je crois que Marine Le Pen reste évidemment avec un socle puissant, Chloé Morin le disait à l'instant, mais je la trouve fragile parce qu'elle, finalement, elle a peu engrangé sur les crises qui viennent de s'accumuler dans ce quinquennat. Certes, elle est en tête aux européennes, mais de justesse par rapport à La République En Marche, après les Gilets jaunes. Et puis là, finalement, elle apparaît comme une force politique qui reste réduite à son rôle de protestation, voilà, une force classique protestataire. Et je trouve, par rapport à cette droite qui est en panne, qui est en difficulté, que lorsqu'on regarde un peu les enquêtes, on voit qu'elle profite pas beaucoup auprès des Républicains. Elle a retourné quelques personnalités, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, quelques personnalités. Ouais. Au niveau local, il n'y a pas eu les grands accords dont elle parlait encore l'année dernière. Je trouve que ça reste quand même... Elle ne dépasse pas son socle.
D'accord. Géraldine Vosner, elle ne rassemble pas.
Et ce qui est un signe, c'est que même son entourage n'y croit guère. Ils sont dans une situation très compliquée. Si vous voulez, ils n'ont plus d'argent. 10 millions de dettes, il faut 30 millions pour faire campagne. Donc là, il va falloir qu'ils lâchent leur siège de Nanterre, qu'ils trouvent quelque chose à Paris. On parle de licencier des gens parmi la cinquantaine de salariés pour se sortir de la nasse. Déjà, il faut trouver de l'argent. Ensuite, il y a ce problème de positionnement. Marine Le Pen ne s'est jamais relevée, finalement, du fiasco du débat face à Emmanuel Macron. Et elle doit toujours affronter ce procès en incompétence qu'on lui a fait. Elle en est consciente. Donc là, il travaille sur le programme. On fait des livres blancs. Alors, on a fait un livre blanc sur la sécurité. Ils vont en faire sur l'énergie, sur d'autres thématiques pour essayer de reprendre la main idéologiquement. Parce que pour l'instant, on reste dans les vieilles recettes du Front National qui est en réaction face aux événements, mais qui n'est jamais en proposition. Et on réfléchit donc au Rassemblement National. Est-ce qu'il faudrait qu'elle quitte la tête du parti pour prendre de la hauteur. Enfin, ils en sont là. Et on a le sentiment parmi ces troupes qu'il n'y a pas un allant extrême sur cette élection. Certains vous parlent même de 2027, comme si finalement 2022, on allait faire l'impasse parce que là, on n'a que 2 ans, les gars, on n'y arrivera pas. Je ne dis pas que c'est partagé par tout le monde, mais on sent clairement un espèce de défaitisme parmi les troupes, et ça, c'est jamais bon signe aussi près d'une échéance.
Et Dominique Reynier, quand elle revendique l'héritage gaulliste, là, c'est quoi? C'est de siphonner l'électorat de droite?
Oui, alors, si l'élection avait lieu aujourd'hui, elle serait au second tour. Hein. Les téléspectateurs ont l'habitude de cette formule, mais ça dit une vérité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir en 2022, Chloé Morin a tout à fait raison, impossible, ni même d'ailleurs qui sera candidat, mais aujourd'hui, ce serait elle au second tour, elle serait présente au second tour. La droite n'ayant pas d'homme fort, sinon une espèce de Nicolas Sarkozy un peu en réserve comme ça ou à l'écart, ça lui est profitable. Elle essaye en effet, avec ses références à De Gaulle, à Jean Moulin, au Veldif, d'aspirer une partie de cet électorat. Ça ne marche pas vraiment, mais enfin, elle le tente. Il y a un environnement sur le régalien, sécurité, immigration, islam, qui lui est favorable. D'autant plus que là-dessus, Emmanuel Macron n'y arrive pas. Enfin, c'est frappant. Il n'ose pas, il ne veut pas. Il annonce qu'il va, mais il ne le fait jamais. Donc on a le sentiment que ça va démarrer, mais que ça ne démarre jamais. Or là, c'est vraiment un problème maintenant qui est très présent dans le pays. Mais il y a aussi l'usure qui a été évoquée de Marine Le Pen. Et puis des doutes, parce que pendant la crise de la pandémie... On ne croit pas, au fond, quand elle dit il fallait faire comme je l'ai dit, etc.
À Trump,
Trump, elle l'avait beaucoup soutenu, encouragé, c'est plutôt un désastre. Boris Johnson n'a pas été un bel exemple de réussite. Donc tout ça n'est pas très bon pour elle. Et puis il faut ajouter, c'est plus récent, que c'est son gros problème. L'incroyable succès d'Emmanuel Macron, en tout cas moi je crois, à l'échelle européenne, C'est un problème pour Marine Le Pen. Elle ne veut pas de cette Europe-là qui dégage 750 milliards, qui va venir au secours de tous les pays et qui va les aider avec une somme absolument gigantesque à repartir sur les rails de la croissance et de l'emploi, à refaire de l'Italie un pays qui peut espérer à nouveau croître et la France aussi dans le sillage, etc. Est-elle encore hostile à l'Europe ? Dans quelle proportion ? C'est son grand problème, ça aussi. C'est ça, le plafond monétaire. Ouais. Moi, je dis que c'est un plafond monétaire, c'est l'euro. Elle va nous dire que, comme Salvini en Italie, l'euro, oui, je veux l'euro, maintenant j'ai changé d'avis, c'est comme sur le Veldiv, j'ai changé de point de vue, je veux l'euro, où elle va toujours dire, vous savez, l'Europe, ce serait mieux si on était à l'écart, en dehors, etc., ce que les Français n'achèteront pas. Donc, elle est là une force, hein, je dirais, de protestation, et ça va sans doute s'exprimer, si c'était dimanche, ça s'exprimerait avec force. Une force d'alternance aujourd'hui, ça paraît compliqué, notamment à cause de l'Europe.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, peut-on dire que le sarkozysme et le macronisme sont similaires ? Géraldine Voster, j'ai le souvenir que Nicolas Sarkozy disait Emmanuel Macron, je crois, c'est moi en mieux. Il avait dit ça au début. Hein.
Il avait dit
c'est vrai.
En mieux et il l'a. Alors pour le coup, il dit qu'il ne l'a pas dit. Ça avait été rapporté par le canard enchaîné.
Bon, Géraldine Voster. Ça se ressemble, macronisme et sarkozysme ?
Ça dépend à quel niveau de lecture on se place. Au niveau communication médiatique, oui, il y a beaucoup de similarités. Au niveau des politiques conduites, je ne crois quand même pas. Il me semble quand même que Emmanuel Macron est socialiste et qu'il a mené une politique qui était plus orientée à gauche qu'à droite, à la fois en termes économiques, mais alors, en sécurité. Il y a des vraies différences, même idéologiques, entre les deux.
Alors, au sujet de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être ce livre, c'est peut-être surtout pour se construire une image de grand sage avant les procès à venir. Question de Régis dans les Côtes d'Or. Puisque Chloé Morin, il y a un agenda judiciaire pour Nicolas Sarkozy. Au printemps, il va être...
À l'automne,
en octobre, il y a le procès sur les...
L'affaire Azibert, l'affaire des écoutes. Ça, c'est le premier rendez-vous judiciaire. Il y en aura un second en 2021, en principe, sur l'affaire dite Big Malion. Donc, effectivement, il y a deux procès judiciaires. Quand vous en parlez avec Nicolas Sarkozy, il est assez zen. Il dit qu'il ne craint pas ces deux épreuves qui seront quand même importantes, fondamentales pour son parcours politique. Ça fait partie évidemment des épées de Damoclès, enfin de l'épée de Damoclès qui pèse sur Nicolas Sarkozy. Mais juste un point quand même sur la question précédente. Moi, je pense qu'il faut pas. C'est les gens comme ça, vus de loin, se disent c'est pareil. C'est pas pareil. Même dans son livre où il dit peu de choses sur Emmanuel Macron, c'est pas l'objet du livre. Il fait remarquer, par exemple, que sur la suppression de postes dans la fonction publique, il rappelle qu'il revendique d'en avoir supprimé 155 000.
Fonction publique d'État.
Oui, d'État. Oui. Et qu'il dit qu'il n'en a pas fait assez, mais il fait remarquer que François Hollande, lui, ça a augmenté de 10 000 sous son magistère, et qu'Emmanuel Macron en a supprimé très, très peu. Donc, il marque sa différence quand même. Marque sa différence sur des éléments de politique publique. Et moi, je pense que la grande différence, c'est le régalien. Dominique Régnier le disait, incontestablement, c'est l'échec pour l'instant d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'il demande à son Premier ministre de s'activer là-dessus, parce qu'il sait que...
Question de sécurité, etc. Quelle personnalité politique pourrait rassembler la gauche ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un chapeau dont pourrait sortir un nom ? Chloé Morin ?
C'est la grande difficulté de la gauche actuellement. On sait que Mélenchon, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans une perspective d'union, il y a quand même Jean-Luc Mélenchon qui tient une partie des clés de la possibilité d'une gauche un jour de s'unir.
Or, il pourrait s'effacer, lui, en 2022 ?
Pour l'instant, il n'en est pas question. Il a toujours cette idée que la France insoumise a vocation à absorber la gauche, et d'ailleurs au-delà, puisqu'il a une ambiguïté sur le fait qu'il est de gauche, puisqu'il remet en cause aussi parfois le clivage gauche-droite. Donc il y a Jean-Luc Mélenchon qui a une image extrêmement abîmée depuis l'épisode des perquisitions et de « Je suis la République », « La République, c'est moi », etc. Et ça, il le sait probablement. Donc, on imagine mal réunir demain l'ensemble de la gauche. Et puis, dans le reste de la gauche, c'est vrai que même un Jadot, qui, pour un commentateur politique, est une personne connue, est encore très méconnu des Français. Et on se dit, est-ce qu'il a l'étoffe d'un président ?
Est-ce que pourrait jaillir, là, l'un de ces nouveaux maires élus à... comme Léonore Monconduit, etc. Non, mais de la même façon qu'Emmanuel Macron a un peu jailli en 2016.
C'est audacieux.
Non, mais je ne sais pas. Emmanuel Macron, c'est... Un maire de Bordeaux, le maire de Grenoble, Éric Piolle.
Non, mais là, vous avez raison, c'est que est en train d'émerger, notamment du côté des écolos et du PS, mais peut-être aussi des Républicains, j'ai moins regardé, toute une génération, en fait, de nouveaux élus qui peuvent potentiellement devenir important sur le plan national, mais probablement plus dans 5 ans, 10 ans, le temps de faire leurs preuves, que là, maintenant, tout de suite. Emmanuel Macron, il a un parcours exceptionnel, mais c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai l'impression.
Les Républicains n'ont-ils pas intérêt à changer le nom de leur parti, Géraldine Vosner? Alors, pourquoi? Ça fait penser aux Républicains américains, non?
Tiens, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Je ne saurais pas répondre, je n'y ai pas réfléchi.
C'est une question J'avoue qui se pose que, plus.
Voilà. C'est une question qui se pose c'est, plus.
Le changement de nom, de toute façon, ça ne... Enfin, on a vu avec, avec le changement de nom du Rassemblement national, les multiples changements de nom, effectivement, des Républicains, et le Parti socialiste qui envisage régulièrement de changer de nom, mais qui ne le fait jamais, ça ne change rien et ça donne même l'impression... aux gens d'une forme de duplicité. On nous prend vraiment pour des imbéciles parce qu'on pense qu'en changeant l'étiquette, ça change le contenu. Donc généralement, c'est comme ça que c'est reçu. Après, ça peut accompagner une volonté de reconfiguration ou d'élargissement. Si demain, par exemple, les Républicains voulaient absorber un autre parti ou faire je ne sais pas quoi, là, ça aurait du sens.
D'accord. Il faut
changer la marque.
Derrière, ce qu'il y a derrière, oui. Que devient Laurent Wauquiez, Bruno Jeudy?
Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à sa réélection. Et ça ne va pas être si simple que ça, parce que c'est une région où, pour le coup, les écolos sont assez présents. Il essaie de reconstruire son image, mais dans sa région, il ronge son frein, il n'a pas totalement abandonné toute ambition nationale, mais il est quand même tombé, il a ramené la droite à 8, et ça, c'est quand même, ça va rester longtemps.
Alors, comment s'organise dorénavant la vie de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy? Que fait-il?
Des conférences, il est membre de plusieurs conseils d'administration de grandes entreprises. Il s'occupe de la vie des entreprises, beaucoup.
Accor, notamment.
Voilà, notamment. Et,
il vend des livres aussi.
Parce que, pour le reste, il écrit des livres. C'est quand même le deuxième en une année. Et le tome 2 viendra l'année prochaine.
D'un mot, les relations entre Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand, comment sont-elles?
Moyennes.
Moyenne.
Mais là, dans le livre, il est plutôt gentil, pour une fois.
Il ne pourrait pas le soutenir en vue de 2022, non?
Non, c'est s'il soutient un candidat, ce sera François Baroin.
Allez, n'attaque aucun président.
Dernière question. Et pourquoi pas Bernard Cazeneuve, candidat en 2022? Ça pourrait faire un recours?
Bon. Il a le même problème que François Baroin, c'est-à-dire qu'il ne donne pas l'impression d'avoir très envie. Donc, il avance, il recule.
Eh bien, voilà. Ainsi se termine cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous restez sur France 5. Bonne soirée et à lundi.